nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 30 octobre, et oui, et il est 8h30, et dans quelques instants, pour des raisons bien précises, c'est Léo qui va prendre totalement le contrôle de cette matinale, c'est-à-dire que je n'ai absolument mais rien géré, il sera avec Monique et Marine et Cécile pour la fête de la vigne, qui a lieu ce week-end à Quézac, et en deuxième partie d'émission, il est allé à la rencontre de Nausicaa, à ce land de trêve, la Ronceret, ce joli lieu culturel. Là, j'ai commencé par les vitaux, Chaïk Benoît. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et Benoît, tu nous gratifies d'une super nouvelle émission qui s'appelle Va nu-pied, on va en parler avec toi. Il y aura de la musique comme d'hab dans cette matinale et on commence par les vitaux. Tiens, on parle de la nouvelle grille aujourd'hui.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Ce moment de l'année que je préfère, parce que c'est l'édito le plus simple que j'ai à faire. Je vous parle de cette nouvelle grille. On est super content puisque on a une vingtaine d'émissions produites par Radio Barthas, de bien jolies choses, très variées. Ça commence à partir de ce lundi. Alors pour les nouveautés, il y aura deux émissions reportage producteur de sens sur l'agriculture locale. C'était Thomas, membre de notre manager de commerce pour la Comcom, qui avait initié ce projet. On a décidé de le continuer tant la démarche est belle. Et ce sera en alternance avec Tout un Monde, une émission consacrée aux brasseurs lausériens. Ces émissions, elles seront diffusées en alternance donc le vendredi à 17h et le dimanche à 11h. Jacqueline, qu'on embrasse, quant à elle, elle continue compte-gouttes et nous gratifie d'une nouvelle émission coup de cœur. Ça s'appelle Le Chaudron des Découvertes. C'est le lundi à 10h30 et le dimanche à 10h, une semaine sur deux. Juliette, quant à elle, elle travaille pour le PETR. Elle vient d'arriver à Florac. Elle s'est motivée vraiment. Sa première émission est super et elle va nous en faire une par mois. Elle est chargée du plan alimentaire territorial qu'elle anime au PETR, je vais y arriver. Elle anime donc une émission qui va s'appeler Chaud Pâte Tate. Alors, elle hésitait avec alimentaire, mon cher Watson. J'aurais vraiment préféré celle-là, mais bon, ils ont voté au PETR. Voilà. En tout cas, c'est une bien belle émission. Et ce sera en alternance avec l'indéboulonnable Palabre en forêt le mardi à 11h et le vendredi à 8h30. Deux émissions en direct cette année. Hein. Thomas fait partie de 1, 2, 3 Climat, c'est le troisième jeudi du mois, à 19h et rediffusé le dimanche à 14h. Il parle de climat. C'est fou, c'est dans le titre, hein. C'est bien trouvé, hein. Moi je trouve. Vous avez géré. Et puis Open Barthas, bien sûr, hein, l'émission de toute la clique de bénévoles. Ils sont, je ne sais plus, je crois 16 ou 17, bon, en alternance évidemment, mais en tout cas, c'est le premier mercredi du mois et rediffusé à 16h le samedi. Il y aura les incontournables, le mot Mixmo qui revient, Galaxy 45, Séquence Parc, Radio des Aînés, Microclass ou encore l'Odyssée des Enfants. Ça revient cette année et il y a une nouvelle émission, donc un programme extérieur et pas trop. On est avec Benoît, l'émission s'appelle Va nu-pied, on va en parler. Déjà Benoît, c'est un super prénom, mais t'es pas là par hasard parce que... Hey. T'es le frère de Thomas, en fait, hein, on va le dire.
Et oui, j'ai été pistonné.
Pistonné, un super programme, Va nu-pied, une émission de philo. Alors, pour qu'on apprenne à te connaître, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ton parcours ?
Oui, je suis Benoît Rivet, je suis actuellement doctorant à l'Université Paris-Cité. Donc, je prépare en fait une thèse de philosophie donc, sur la question de la marche. Voilà, donc j'ai suivi une formation de philosophie à Lyon. Voilà, donc j'ai un master, un double master en recherche et en enseignement.
Boum. Vous voyez qu'on prend pas n'importe qui sur Radio Barthas. In fine, comment elle est née l'idée de cette émission Va nu-pied ?
Et ben en fait, à la base, c'est parti d'une blague. Voilà, Kinka m'a fait une blague sur Instagram en me disant que je devrais lancer mon propre podcast. Et je me suis dit, en fait, bah oui, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai enregistré une émission un peu dans ma chambre avec un micro que j'avais acheté la veille. Et voilà.
La qualité du programme est cool, hein. D'où il est venu le titre, ce Va nu-pied ?
Moi je travaille du coup effectivement sur la marche, et en fait c'est aussi lié au fait que historiquement la philosophie naît de la marche. Voilà, les philosophes qu'on appelait les péripatéticiens, donc en fait un peu les sectateurs d'Aristote, de Platon, qui justement marchaient en philosophant. Donc c'est un peu l'idée, voilà, de revenir à cette origine-là.
C'est marrant parce que tu as anticipé une question que je comptais finir par celle-là, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est justement des courants de pensée qui t'intéressent ou t'en as d'autres aussi dans la philo, parce que la philo c'est extrêmement vaste.
Oui, en fait en soi je pense que les péripatéticiens c'est pas vraiment un courant de pensée, c'est plutôt une pratique autour de la philosophie qui montre en fait que la philosophie c'est avant tout quelque chose de vécu, de conversationnel, voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après effectivement j'ai des courants de prédilection, mais mes courants c'est pas vraiment de la philosophie antique, c'est plutôt la philosophie du XXe siècle, ce qu'on appelle la phénoménologie, voilà.
Phénoménologie, il n'y a pas un certain Sartre dans le délire ?
Si, il y a un Sartre dans l'eau, ouais, il y a Heidegger, Merleau-Ponty, enfin voilà.
Ouais, ça fait des jolis noms un peu tout ça. Alors la première commence bien, la première émission vient du pied, la première diffusion c'est ce samedi à partir de 10h. Venez comme vous êtes, explique-nous un peu de quoi, alors pour cette première émission, quel postulat de départ tu as choisi ?
Pour la première émission, ouais. Alors je travaille sur la question de l'authenticité. C'est une question qui m'intéresse parce qu'en fait, j'avais fait l'observation un peu quotidienne de voir un peu toutes ces enseignes, bon, dont McDonald's évidemment, mais évidemment d'autres enseignes qui mettaient en avant ce goût pour l'authentique, ce goût de la vraie vie, etc. Et en fait, j'en rigolais avec mon colocataire parce qu'on a un paquet de céréales chez nous, les céréales Jordan, un truc comme ça. Derrière, il y a écrit le goût de la vraie vie et on s'est dit, c'est quoi le goût de la vraie vie en fait ? Surtout pour des céréales qui sont a priori pleines de sirop de sucre, etc. Bon, bref. Et du coup, enfin. Voilà, ça m'a un peu interrogé, donc je me suis dit pourquoi pas faire un podcast là-dessus, sur la question de ce que c'est que l'authenticité, qu'est-ce qu'un produit authentique, qu'est-ce qu'une personne authentique. Voilà.
Alors, t'as dit Jordan, on va dire deux autres marques, hein, on est obligé pour l'ARCOM.
Ah, pardon.
Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, il y a quoi ? Il y a Kellogg's et puis, je ne sais pas, Banesto, oui. Vas-y, allez, hop, c'est bon. Désolé pour l'ARCOM, mais effectivement, bon. Et comment tu vas choisir les prochains thèmes un peu, comment tu vas bosser toujours en partant de ce genre d'idées ou un peu comme ce qui te viendra suivant tes lectures, ce que tu vois ou ce qui t'interpelle?
Oui, c'est un peu ça. Après, voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir aborder des sujets que je traite en recherche, donc éventuellement des émissions sur le paysage, sur notre rapport au paysage, ce que ça dit de notre culture. Mais après, je suis aussi très intéressé par tout un tas de choses en philosophie, donc la philosophie du vivant notamment. Donc j'aimerais bien faire une émission sur un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, que j'ai beaucoup lu, que j'ai adoré. Donc j'aimerais bien pouvoir en parler, résumer ses livres, etc. Enfin, voilà, donc c'est assez, assez varié, on va dire.
Ouais, et parfois la philo peut être ennuyante, ennuyeuse. Ouais. Et là, je le dis franchement, auditeurs et auditrices, en tout cas la première émission, on n'a pas écouté le reste, hein, mais la première émission est absolument super. Justement, le but du jeu, c'est quand même de rythmer, de montrer peut-être d'autres façons de parler de philo, quoi, ou de faire de la philo.
Ouais, bah, en plus, justement, j'avais un peu dans l'idée de faire une émission consacrée un peu à la pop culture aussi. J'aime beaucoup la pop culture, en fait, et mes exemples de philosophie, c'est souvent ça. Et j'ai envie, en fait, de montrer qu'on peut avoir un regard philosophique sur la pop culture, et surtout que la pop culture propose, en fait, des pensées qui sont philosophiques, voilà, des thèses qui sont philosophiques. Et voilà, j'ai un peu envie de faire ça aussi pour revaloriser, justement, des pratiques qui sont dans notre quotidien, des pensées qui nous travaillent tous les jours, enfin, voilà. C'est un peu mon objectif.
C'est quoi le but de la philo pour toi ?
Le but de la philo, je pense que c'est de clarifier le langage, donc d'apaiser les débats en fait, de poser les concepts, poser des définitions, ce qui permet d'éviter de tomber dans la polémique trop facilement. Je pense qu'à l'heure actuelle, le débat public ressemble beaucoup à justement une absence totale de clarification qui entraîne une sorte de pugilat constant. Et le but de la philosophie, c'est de prendre le temps de définir les termes. Voilà, le privilège un peu de la lenteur, en fait, finalement. Mmh. Voilà.
C'est vrai. Bah, merci beaucoup, Benoît.
Eh bien, de rien.
Et Va Nu-Pied, c'est donc le samedi matin à 10h, une semaine sur deux. Et le lundi à 17h, une semaine sur deux. À très, très bientôt. Et vraiment, je vous incite, auditeurs, auditrices, à écouter Radio Barta, ça c'est normal. Mais en tout cas, à écouter cette émission qui est géniale. Allez, dans un instant, Léo prend le contrôle total de cette matinale. Je n'ai rien maîtrisé, je n'ai rien écouté. C'est lui qui prend les rênes. Et c'est très bien comme ça. On écoute d'abord les Bruce Brothers et Ray Charles de Twist Dance. Vous êtes bien sur Barta. Et belle journée. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have baby.
je te fais un câlin.
Aujourd'hui, j'accueille avec moi dans le studio Cécile Bridgens, Monique Fraissinet et Marine Kama qui sont venues me parler de la troisième édition de la fête des vignes et des vergers qui aura lieu le samedi 4 novembre à Quézac. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Cette fête est originaire du projet Mémoire pour demain, initié par le foyer rural Tarnon-Mimante et désormais porté par le foyer rural Les Petits Cailloux, qui à nouveau du coup organise un événement autour de la partage des savoir-faire, parce qu'il y a quelque temps il avait fait la fête des savoirs avec plein d'artisans. Le projet Mémoire pour demain est donc à la base constitué de 5 personnes ayant chacun un thème particulier qui devait faire vivre grâce à des enquêtes, des recherches et des ateliers et des animations. Marine, ton thème c'était les vignobles des Gorges du Tarn, renaissance d'un patrimoine jamais oublié. Monique, la condition féminine et les enfants abandonnés au 19e siècle est aussi un dossier loin d'être classé à l'aval du Tarn. Et tu as sorti un livre.
Il va sortir.
Il va sortir.
Le livre qui est sorti c'est celui sur Le chemin des écoliers.
2 livres, du coup, bientôt.
Oui.
Et Cécile, c'est les eaux capricieuses du Tarn, ses ressources, ses dangers.
Tout à fait.
Qui sont les autres personnes qui travaillent sur ce projet ?
Il y a Sophie Lemonnier, qui travaille, elle, sur les plantes médicinales, plus particulièrement. Elle est de formation ethnobotaniste. Et elle, précédemment, dans le cadre du projet Mémoire pour demain, elle avait sorti un livre sur les champignons.
Après, dans l'équipe, il y a aussi d'autres personnes, mais qui sont moins attachées à un thème en particulier, mais qui sont actives. Il y a Dorine, notamment, et Jean-Claude, et d'autres.
Aujourd'hui, vous en êtes où sur vos thèmes spécifiques, Marine ?
J'en suis à interroger des anciens, des Gorges du Tarn et d'Ispagnac. Moi, je vais pas orienter... Le rendu des recherches sur un livre, mais plutôt sur un montage sonore. Du coup, voilà, pour l'instant, je suis toujours dans une phase d'entretien parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps, parce qu'on va voir les personnes, on les interroge, et puis après, ces entretiens, on les retranscrit. Et voilà, c'est beaucoup de temps, donc c'est en cours.
Monique ?
Oui, pour moi, c'est l'histoire de la vie de Victoire, donc, qui a vécu dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui est originaire de Laval du Tarn. J'ai déjà fait quelques conférences là-dessus. L'écriture est bien commencée, je continue, et c'est bien parce que c'est un thème qui se passe sur le Cos, contrairement à mes amies, elles, qui sont dans la vallée.
On peut voir d'ailleurs un très bon reportage de Télédrive qui était passé te voir et qui a fait un 20 minutes, il me semble, sur là où tu en étais il y a un ou deux ans, quelque chose comme ça.
Oh, non, non, c'était au mois de mars-avril, là, de cette année.
Cette année ?
Oui,
ah,
oui.
J'ai pas regardé la date,
oui, oui.
Autant pour moi.
Oui, oui.
Bah, ils ont été rapides. Et Cécile, du coup, dans ton projet ?
Alors moi, je travaille sur le thème de l'eau.
N'hésite pas à rapprocher ton micro.
Alors moi, je travaille à la fois un peu sur le thème des vergers, qui était mon thème d'origine, et maintenant aussi, je m'intéresse énormément à l'eau, au Tarn, à l'eau de consommation, à l'eau sous la forme de consommation, d'eau de boisson, les arrosages. Et puis aussi le Tarn comme moyen de transport Et plus tard, comme pour le tourisme, par exemple, avec la batellerie de la Malène. Donc l'eau sous toutes ses formes et dans le quotidien, en quelque sorte, des gens qui habitent dans les gorges. Donc j'ai commencé des entretiens sur ce sujet, et puis là je vais continuer pas mal sur l'hiver.
Tous ces thèmes sur ce projet sont beaucoup liés à la nature. Si, l'eau, la vigne, c'est la nature, c'est la forêt, c'est... Qu'est-ce qu'il en est de l'artisanat ? Est-ce que ces mémoires de l'artisanat, elles sont aussi... elles ont aussi pour but d'être transmises avec le projet Mémoire pour demain.
Ben là, en particulier pour l'artisanat, il y a la batellerie, parce que au départ, les bateaux étaient faits par les gens des gorges du Tarn. Et justement, là, je vais avoir des photos du tronc d'arbre en train d'être découpé par un artisan des gorges. Et c'est comme ça qu'au départ, en fait, a été fondée la batellerie. C'est-à-dire que c'était par des gens du coin qui faisaient les bateaux eux-mêmes.
Une fois que vous avez choisi votre thème, ou est-ce que vous le choisissez, il ne vous est pas imposé, vous choisissez votre thème, quelle va être votre manière de travail ? Vous travaillez toutes de la même manière ou chacune différemment ? Bonne Marine.
Oui, c'est complètement nous qui avons choisi nos thèmes. Moi, la vigne, c'est un thème qui me passionne et dans lequel je travaille. Moi, j'ai pas vraiment de méthode. Il y a une phase un peu exploratoire qui nous a d'abord permis justement de choisir ces thèmes, c'est-à-dire qu'on a d'abord discuté avec des anciens et un peu balayé. On les a écoutés, quoi. On a écouté ce qu'ils avaient à nous dire, et c'est un peu de ça qu'on a tiré nos thématiques. Bon, évidemment, à Hispania, qui est dans les gorges, la vigne, c'était assez évident. Et voilà, après, quand on commence à faire des entretiens, eh bien, du coup, ces personnes-là nous parlent d'autres personnes et puis nous conseillent un tel et un tel, ça va assez vite comme ça. Du coup, moi, je me dirige plus vers des personnes qui soit ont eu des vignes ou sont issues d'une famille qui avait des vignes, etc. Voilà, c'est des discussions. Moi, j'aime bien m'attarder sur des sujets assez précis. Enfin, leur demander de parler des détails, leur dire, mais alors, une journée de vendange, c'était comment ? Et puis, qui faisait à manger ? Et puis, à quelle heure ça terminait ? Et qu'est-ce qui se passait tel jour, etc. Et puis après, ouais, voilà, je me laisse assez guider.
Du coup, tu récupères de l'information. Cette information, tu en fais quoi ? Tu la notes, tu l'écris, tu l'enregistres ?
Ouais, tout est enregistré et après, tout est retranscrit. Donc, c'est des heures et des heures et des heures de retranscription. Et puis après, ça, c'est une phase que je commence à peine. Du coup, après, c'est m'attarder sur certaines sous-thématiques. Voilà.
Ce sera quoi le but final ? Tu comptes faire un livre, faire une restitution d'une manière ou d'une autre ?
Ouais, plutôt une restitution sonore avec des montages. J'avais fait un petit montage là quand on avait fait une soirée avec la mairie. Là, c'était pas sur la vigne, c'était plutôt sur les fruitiers. Donc oui, faire des montages avec des extraits d'entretien. Et puis peut-être aussi on va travailler l'an prochain avec une autre personne, peut-être plus pour une création sonore qui se détache un peu juste du pur entretien, mais qui soit plus, je sais pas ce que ça peut donner, une création sonore un peu plus élargie. Et puis aussi, peut-être, pourquoi pas, j'ai rencontré un habitant qui m'a parlé des cahiers de caves que son grand-père avait. Du coup, je me disais, pourquoi pas juste les lire et en faire une sorte de roman ou de fiction sonore. Enfin voilà, plein d'idées.
Très bien. Et ce serait approprié pour quand, ça, déjà? Il y a une idée?
L'an prochain, je crois, on a dit ça.
Monique, quelle est ta façon de travailler ?
Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure que dans le cadre aussi de ce projet Mémoire pour demain, non seulement je travaille sur l'histoire de la vie de Victoire, mais en même temps sur les processions catholiques. Alors, c'est un sujet qui est arrivé tout à fait par hasard. Lorsque nous sommes allés présenter notre projet au foyer cantine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, du troisième âge, le mercredi midi, puisque les personnes du troisième âge mangent à la cantine scolaire, Et elles ont souhaité, je dis elles parce qu'il y a beaucoup plus de dames que de messieurs, elles ont souhaité que je vienne pour qu'elles puissent écrire sur un sujet. Et naturellement, le sujet sur les processions est ressorti de ces entretiens. Et donc, du coup, ben, je les ai interrogées, un peu comme Marine, hein, puis après on transcrit, voilà. Beaucoup m'ont apporté des cartes postales, des photos. Il y en a même qui ont couvert l'événement début septembre de cette année pour la procession à Cazac. Donc c'est un sujet absolument passionnant. Elles sont passionnées et contentes de me raconter tout ce qui se passait à l'époque. Bon, ça n'a rien à voir avec la vigne, les vergers, mais c'est quand même quelque chose qui était très prégnant là-bas dans on va dire le début des Gorges du Tarn. Et partout, parce que j'ai des processions sur Saint-Enimy, sur la Malène, enfin voilà.
Et du coup, ça c'est une de tes façons de travailler pour ce sujet-là, c'est d'aller voir les gens et de les questionner sur leur oui. histoire. Mais j'ai cru voir que tu allais aussi dans les archives.
Voilà, alors les archives, bon, je suis allée pour les processions, je suis allée aussi dans les archives de l'évêché de Mende. Donc j'ai commencé à trouver des choses intéressantes, là je débute juste. Et quant à l'histoire du Victoire, c'est pratiquement qu'aux archives. Quand bien même, je suis allée début juin à la Val du Tarn en immersion pour voir un peu les gens du hameau, voilà, qui m'ont fort bien reçue. Et c'était très très agréable. J'ai eu même la chance de rentrer et d'être invitée par les habitants actuels de la maison de Victoire, où habitait Victoire. Donc ça a été le petit plus qui m'a fait énormément plaisir, et à eux aussi d'ailleurs.
Et la restitution de tes travaux se font sous forme de livre, parce que tu aimes bien écrire.
Oui, celui de Victoire, ça sera vraiment le livre, la vie de Victoire, que j'intégrerai dans une vie rurale, économique, religieuse, etc. Et sur les processions, ça sera plutôt du rendu plus brut, hein, sous forme de transcription d'enquête et des cartes postales et des photos que les gens m'ont confiées.
Cécile, on ne t'oublie pas. Dis-moi, quelle est ta façon de travailler sur ton projet ?
Alors, moi, je suis un peu sur deux thèmes. D'une part, pour le projet Mémoire pour demain, je suis sur le thème de l'eau. Et là, un peu comme tout le reste de l'équipe, ça consiste à, d'une part, à faire des entretiens auprès des aînés pour qu'ils nous racontent, par exemple, le branchement à l'eau de la ville, qui était très très important, parce qu'avant, les gens, il fallait qu'ils aillent faire la queue au puits, il y avait des disputes, etc., pour prendre l'eau. Et puis, il y a aussi, par exemple, le thème de la pêche, qui est un thème assez pittoresque parce que ça finissait souvent en espèce de jeu entre les gendarmes et les voleurs, parce qu'il y avait un peu de contrebande, il y avait la pêche au flambeau qui était qui était un peu illégale, on va dire. Et donc tout ce thème, ça se passera par des entretiens. Il y a des gens qui m'envoient des photos, comme Jean-Claude Paulet qui a des photos d'archives absolument remarquables. Et puis il y a aussi les archives départementales pour savoir ce qui s'est passé quand il y a eu des grandes inondations qui ont emporté des ponts, des accidents. Il faut bien en parler aussi. Bon, alors ça c'est pour le thème sur l'eau, mais en même temps, je continue aussi un peu sur le thème de des vergers, puisque on parle aussi beaucoup de la fête de la vigne et des vergers. Et là, le processus est complètement différent parce que il s'agit d'essayer d'identifier de retrouver les variétés fruitières locales. Et ça, par exemple, ça se fait pas mal par la détermination, en quelque sorte, l'identification de variétés de fruits qui sont apportées par le public à notre pomologue Sabine Rosier, qui identifie les fruits et par exemple si elle retrouve quelque chose de très intéressant, elle est aidée par une enquêtrice et elle va par exemple nous signaler telle personne aurait telle variété qui nous intéresse.
Mais ça on va en reparler juste après. Est-ce qu'il y a des futurs projets à venir ou des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler mais vous n'avez pas forcément le temps ou vous vous dites je finis d'abord ça et après j'irai sur ça? Non, pas de projet en vue pour le moment.
Ben, je crois qu'on a déjà tellement de plein de pain sur la planche en ce moment que
vous êtes rempli de travail jusque-là.
Ah oui, on est déjà très très actif.
Du coup, la journée qui va venir, ça va être la fête de la vigne et des vergers. J'ai le mot forêt en tête. Du coup, la journée arrive très vite. C'est-à-dire le samedi 4 novembre. La fête de la vigne et du verger. J'imagine que c'est un peu comme une restitution du travail du coup autour des thèmes de la vigne et du verger.
Ça y a un complément.
Oui et non. C'est à la fois une restitution parce que, par exemple, nous allons avoir une exposition de fruits que nous avons déjà retrouvés, des fruits qui sont assez emblématiques comme le raisin. Pour le raisin, l'Isabelle. Pour les pommes, la cabus, la jaleille, la chabanis. Et pour les poires, l'elzette. Donc, il va y avoir quand même une restitution de tout le travail qui a été fait avant et présentation de ces fruits qui ont été sauvés quand même et qui ont été sauvés, par exemple, d'une part par moi, en toute modestie, mais aussi par le Parc National des Cévennes qui a fait un verger conservatoire en 1988 qui se trouve à Vintageolles.
Et Marine, du coup, est-ce que c'est une restitution de ton projet un peu cette journée ?
Je dirais pas ça, même si on pourra entendre quelques extraits sonores de ce sur quoi je travaille. Il y aura un petit espace qui sera vraiment dédié à Mémoire pour demain, où il y aura à la fois les ouvrages qui sont déjà sortis de Monique, de Sophie, et des photos de Jean-Claude, et puis aussi des extraits sonores de ce sur quoi je suis en train de travailler. Voilà, mais quand même, c'est beaucoup plus global. Tu disais tout à l'heure, troisième édition de la fête. C'est la troisième édition de la fête des vergers. Et cette année, la vigne se rajoute. Les années précédentes à Saint-Laurent et à Vébron, c'était la fête des vergers.
En tout cas, c'est une journée qui va être extrêmement remplie de 9h30 à 17h. Pour remplir une journée autant, il faut beaucoup de monde. Il faut quand même un peu de monde pour travailler dessus. Qui sont les acteurs principaux du coup de cette journée ?
Eh ben, il y a en fait un peu nous trois déjà. Il y a Sophie Lemonnier qui participe énormément. Elle est pas là aujourd'hui, mais elle y a beaucoup travaillé. Et puis il y a bien sûr toutes les filles des petits cailloux. Il y a Dorine,
Christelle qui a beaucoup travaillé sur ce projet, qui nous aide énormément.
Le parc national, ils font juste des visites, ils ont un atelier, c'est quoi leur implication ?
Alors, le parc national, il a donc un verger conservatoire à Vintageolles, mais ce verger conservatoire qui a été fondé en 1988, en 2023, il n'est pas aux normes INRA, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, il n'est pas aux normes de verger conservatoire de l'INRA. Donc, pour être homologué, il faut qu'il y ait un certain espacement entre les arbres et il faut qu'il y ait 3 arbres par variété. Alors, comme le terrain est limité, du coup, ils ouvrent un verger à Quézac, qui s'appelle le verger du Pré au Clair, et qui va servir en quelque sorte de verger complémentaire, parce que, en fait, ce thème du verger conservatoire peut être fait de 2 ou 3 vergers. Voilà, et à ce moment-là, le Parc National donc travaille énormément sur le sujet des fruits oubliés, et a déjà pas mal de variétés très très intéressantes.
Parlons un peu du programme. J'en prendre un. Si on se penche sur le programme, on voit que ça ouvre à 9h30. Moi, si je viens à 9h30, qu'est-ce que je peux faire ?
Eh bien, tu peux déjà venir admirer l'exposition de fruits. C'est une exposition très très rare de fruits de Lozère. qu'ils ont été, qui sont glanés cette année là entre dans les divers vergers qui se sont dont les propriétaires se sont intéressés aux variétés locales anciennes.
Tu peux, à l'intérieur de la salle des fêtes, tu trouveras différents stands d'associations. Il y aura notamment le stand de l'AFA, c'est l'association foncière agricole qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans quand la mairie a voulu réimplanter les vignerons d'Ispagnac qui sont là aujourd'hui. Et en gros, si tu veux, cette asso, elle sert vraiment à mettre en commun toutes les petites parcelles de différents propriétaires qui voudraient mettre à disposition, mettre en location leurs terres. C'est comme ça qu'ils ont pu installer les vignerons à l'époque. Et là, avec l'installation d'un jeune vigneron à Ispagnac l'an prochain, il y a vraiment une envie de relancer cette AFA. Ils seront là avec un stand et un ordinateur. On peut regarder les parcelles de chaque personne, où elles sont, etc. pour vraiment essayer de donner envie de remettre en culture des parcelles qui seraient en friche ou des gens qui aimeraient voir les parcelles qu'ils ont pouvoir servir à...
Et il y a tout un atelier sur le foncier, sur les parcelles. Je ne sais pas s'il y a un atelier vente aussi de parcelles ou...
Non, mais à ce stand-là de l'association foncière agricole, il y aura aussi la SAFER qui propose un peu une cartographie, en fait, et puis aussi juste simplement expliquer aux gens qu'est-ce que ça implique pour eux, quels sont les avantages qu'ils ont à mettre en location leur terre.
Je vois qu'il y a aussi la détermination de nos fruits. Ça me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des fruits et qui se demandent qu'est-ce que c'est ?
Oui, il y a des gens qui nous apportent... En principe, ce qu'on demande aux personnes qui ont un arbre fruitier qui donne des bons fruits, mais ils ne savent pas du tout ce que c'est, on leur demande de nous apporter 3 ou 4 spécimens de cet arbre, de ce que produit cet arbre. Ces spécimens, ces échantillons, ils doivent être aussi représentatifs que possible de la production de l'arbre. Et il doit être autant que possible sain, et il ne faut surtout pas les essuyer ni les laver, parce qu'à ce moment-là, on enlève des caractères distinctifs, on peut casser la queue, on peut enlever la prune. Bon. Et à ce moment-là, notre pomologue Sabine essaie de les identifier, parce que c'est extrêmement difficile de faire une identification morphologique, comme on dit. Et ensuite, ensuite elle nous donne l'identité de la variété, et nous, au besoin, on ira chercher des greffons de cet arbre à la fin de l'hiver, et on les greffera en mars. De façon, et on les identifiera bien, on les marquera sur nos répertoires, et de cette façon, on tâchera de sauver la variété en question.
Quand tu dis nous, c'est les vergers de Lozère.
Alors, c'est vergers de Lozère, mais c'est aussi les petits cailloux, c'est vergers de Lozère qui s'en occupent pas mal aussi beaucoup. Ils font énormément d'ateliers et ils seront présents.
Ouais, ils auront un stand aussi avec greffe sur table à l'intérieur.
Oui, et en plus, ils ont des pépiniéristes. Donc, il y aura des ventes de jeunes plants qui sont justement des variétés locales qu'on ne trouve jamais dans le commerce.
C'est pas un peu... Je ne sais pas s'il y a des périodes dans l'année pour acheter des plants, les planter.
Sainte-Catherine, évidemment, c'est fin novembre. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc, mais en fait, c'est à n'importe quel moment quand les arbres n'ont pas de feuilles et sont en dormance. Voilà.
Tu parlais de plusieurs variétés qu'on pouvait découvrir de nouvelles variétés du coup d'arbres fruitiers, même en voie de disparition, en faisant analyser nos fruits. En quoi c'est important de découvrir de nouvelles variétés ?
Si tu veux, ce qui se passe, c'est que les fruitiers locaux, ce sont des fruitiers qui ont été sélectionnés un peu par tâtonnement par les paysans d'ici, et qui ont été sélectionnés pour certaines qualités, d'abord évidemment qualité gustative, mais surtout pour l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire pour leur conservation, pour leur qualité de conservation, et aussi surtout pour le fait qu'ils peuvent, qu'on peut les cultiver facilement sans faire appel à des produits chimiques, à des fertilisants, à des pesticides, etc. Donc, ce sont des fruits qui sont sains, qui ne coûtent presque rien à cultiver, et c'est très important pour, en quelque sorte, pour une sorte d'autonomie alimentaire locale qui pourrait nous servir encore maintenant, qui pourrait être remise à l'honneur maintenant. Et puis aussi, c'est lié à tous les petits savoir-faire locaux, les recettes, par exemple les poires. On s'en servait, on les séchait et on en faisait des tisanes comme certaines prunes. Ce sont des usages qui sont en voie de disparition, mais qui sont très intéressants à remettre à jour.
Dans la journée, sinon, si on continue le planning, je vois qu'il y a de la côté vigne et vin, il y a de la dégustation et aussi des causeries et des ateliers autour du vin.
Oui, pas mal de vignerons amateurs qui viendront faire goûter leur vin de Treille. On pourra aussi boire des verres de blanc des vignerons d'Hispania qui seront en vente à la buvette.
Tu peux m'expliquer très rapidement ce que c'est le vin de Treille ?
Le vin de Treille, ici dans les Cévennes, on voit beaucoup de Treille, qu'on appelle Treille finalement la structure en fait, qui va être au-dessus des terrasses, devant les maisons, et on y fait grimper des vignes. Mais il se trouve que ce ne sont pas les vignes qu'on voit dans les cultures de vignes qui, eux, sont du Vitis vinifera. Là, ça va être des vieilles variétés, pas des vieilles variétés, des variétés hybrides américaines qui ont une longue histoire. Je ne sais pas si je pourrais la raconter ici, mais en tous les cas, voilà, ça a été planté. C'est des vignes très vigoureuses. Et puis, du coup, elles apportent l'ombrage et beaucoup de fruits. Et elles ont un goût un peu différent.
Merci pour m'avoir éclairé.
Le Baco. Ce sont des vignes hautes, comme on dit. Ce sont des vignes hautes, en quelque sorte, qui étaient aussi utilisées pour l'ombre.
Tout à fait. Qu'on vendange en escabeau.
Et du coup, tu étais sur le vin blanc d'Hispaniac ?
Oui, qui sera en vente au bar quand on mangera la Ligo, si on a envie d'un petit verre de chardonnay. Ça sera possible, ouais.
Et les ateliers, il y a écrit atelier.
Oui, alors l'idée c'est vraiment de faire avec ce qu'il y aura. En fait, moi, ce que j'espère, c'est que cette fête, elle réunisse vraiment les anciens et les plus jeunes, parce que j'ai rencontré beaucoup d'anciens qui me parlent de pratiques qui ne se font plus parce que c'était dans le temps, et qui me racontent des choses qui existent toujours. Et moi, j'ai très envie de leur montrer que ça n'a pas du tout disparu, et que tout ce dont ils me parlent, pas tout, mais une partie perdure encore. Et l'idée, ce serait, il y aura une petite presse, on devrait essayer de faire une vendange très tardive d'Isabelle, s'il veut bien pas trop pleuvoir, il devrait encore y en avoir, là il y en a encore sur le, voilà, donc 2-3 jours avant j'irai vendanger ça. Et puis si on peut se montrer entre nous comment on fait des boutures, etc., un peu parler pratique, et puis aussi faire de la dégustation, parler, il y a toujours un peu ce syndrome quand on déguste de dire non mais moi j'y connais rien, et donc là c'est vraiment, voilà, on aura une roue des saveurs un peu classique, mais aussi d'essayer de se lâcher sur la dégustation et de trouver ses propres termes, et d'échanger autour de ça.
J'ai vu qu'il y avait aussi des producteurs locaux, ce sera pour à peu près quel produit, qui sont les producteurs, qu'est-ce qui sera là, qui sera là pour vendre ces produits locaux?
Alors c'est un petit peu pour... habiller le reste de la fête, mais il y a déjà pas mal de stands. Du coup, il y aura du pain, il y aura du miel, et puis il y a aussi les pépiniéristes qui ont leur stand de
vente de jeunes arbres locaux.
Oui, mais ils ont aussi, je crois, des produits, confitures, des pâtes de coin, peut-être des jus.
Et si tu permets, on pourrait peut-être profiter de l'occasion pour rappeler aux gens que nous acceptons bien volontiers leurs recettes de tartes qu'on pourra déguster.
Et pas que leurs recettes, ouais.
Des tartes
qui vont nous amener, mais à côté, s'il y a la recette, c'est encore mieux. Oui. C'est un petit plus.
Oui, voilà, l'idée, c'est vraiment de motiver les gens pour qu'à 16h, ils nous fassent goûter leur tarte aux fruits d'automne. Ça peut très bien être une tarte tatin, une tarte épaisse, une tarte fine, avec tarte un fond de compote de coing, d'autres à la poire. Voilà, on a envie vraiment d'échange, de convivialité. On a vraiment envie que ce soit à l'image de ce projet. C'est pas vraiment une fête commerciale qui est vraiment centrée sur la vente, mais vraiment sur l'échange avec les gens, les habitants, aussi pour donner à voir ce projet, encore faire des nouvelles rencontres et avoir des nouveaux contacts. Il y a aussi un groupe de musique, la Cagette au Loulou, qui devient un peu incontournable ici, qui jouera entre midi et deux.
Il y aura un troc de plantes aussi, de plantes, oui, et d'objets, enfin d'ustensiles, de cuisine ou de jardinage.
Oui, c'est l'association Jardin Nature 48, avec vraiment des super personnes qui vont venir pour s'occuper de ce troc.
Monique ?
Mais comme le dit si bien Marine, ça ne sera pas commercial, mais quand même, j'aurai un petit stand librairie pour présenter nos projets déjà aboutis et la vente de livres sur le chemin des écoles, des écoliers, et Sophie sur les champignons.
Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que pour la détermination des fruits, comme on est obligé de demander une petite participation aux frais de 2 € par variété, parce que nous sommes évidemment pour l'association, les associations, la détermination, elle est pas gratuite. Voilà.
En tout cas, vous avez réussi à défier les épisodes Sevenol pour la dernière édition et je vous souhaite de réitérer ce miracle. Bonne transmission de savoir à vous.
Merci à toi.
Merci à toi.
Thank you.
Aujourd'hui, j'emmène la radio à la Ronceret, à Saint-Laurent-de-Trèves, un lieu de résidence, un lieu d'exposition, un lieu riche d'artistes qui fourmillent de culture et qui fonctionnent grâce au monde associatif, mais surtout un lieu qui existe grâce à toi, Nausicaa Boutreuil. Bonjour à toi.
Bonjour.
Tu as ouvert officiellement la Ronceret aux artistes en 2019. J'ai cru comprendre que c'était un rêve d'enfant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce rêve ?
Oui, absolument, tout à fait. C'est un rêve d'enfance concrétisé, puisque j'imaginais petite fille créer un théâtre dans une grange que je voyais énorme. Bon, elle fait que 50 mètres carrés, mais finalement, on peut accueillir jusqu'à 50 personnes en place assise. Et puis, de ce rêve de théâtre, eh ben, ça s'est transformé aussi en salle d'exposition, en salle où on trouve des sorties de résidence. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer demain soir, une sortie de résidence de clown. Et puis aussi des concerts, voilà, il s'y passe des choses en effet très variées.
Ça a été quoi tes inspirations petites ? Tu as été inspirée du coup par tes parents ou par ton vécu, des spectacles que tu as vus ?
Alors, je crois que j'ai été inspirée beaucoup par le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine à Vincennes, où c'était des émotions très très fortes, ces spectacles. Je garde un souvenir du film Molière avec Philippe Cobert. Voilà, c'est complètement imprégné dans mes cellules. Aussi le film Le Maître de Musique de Corbiot. Je crois que c'est des émotions et c'est ça qui fait palpiter mon cœur. Et je me suis dit, il fallait faire palpiter le cœur des autres aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'association s'appelle le Joya Encore, qui veut dire en langue occitane le cœur en joie.
Tu ne tiens pas que ce bâtiment, tu as aussi toi-même un travail d'artiste, tu as un personnage de clown qui s'appelle Rosette, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument. Alors là, comment as-tu tu trouver une chose pareille ? Oui, en effet, ça m'arrive donc d'être en clown Rosette. Et d'ailleurs, en même temps d'une résidence de ma professeure de clown, Mylène Normier, je suis moi-même en résidence avec Hugues Joudrin et nous sommes en train de travailler sur une création qu'on espère pouvoir présenter en 2024, mais je n'ai pas encore le mois ni la date.
Aujourd'hui, il en est où ce rêve ? En 2021, quand tu passais en matinale avec Ben, tu disais qu'il était encore en préparation, encore en formation. Aujourd'hui, c'est bon, il est atteint ou il y a encore quelque chose, deux, trois éléments qui...
Alors oui, c'est une véritable aventure initiatique. Donc l'intérêt, c'est que ça bouge tout le temps. D'abord, comme il n'y a pas de sélection au niveau de l'accueil des artistes, comme je dis à chaque fois, voilà, tout ce qui est vulgaire, grossier, ne rentre pas à la Ronceret. Et ça me permet de découvrir des cultures de musique en particulier, du théâtre. Je ne serais pas allée forcément vers ça, mais c'est toujours des rencontres humaines exceptionnelles. J'ai la chance vraiment d'accueillir des artistes qui sont des anges, voilà.
Et je disais un peu plus tôt que ce lieu existait grâce à toi, mais c'est peu dire. Que serait ce lieu sans toi ? Est-ce que tu saurais verbaliser du coup toute l'implication que tu as ici ? Qu'est-ce que tu fais chaque jour ? Est-ce qu'il y a même une routine qui s'est créée ? Ou alors chaque jour est différent ?
Alors chaque jour est complètement différent, il n'y a aucune routine et c'est ça qui est fabuleux, c'est que les journées se ressemblent absolument pas et donc c'est ça qui fait que la vie au quotidien est assez formidable, assez exceptionnelle. Et puis elle est bien sûr, c'est aussi grâce aux personnes qui sont là en résidence, qui font que chaque journée présente ses miracles, voilà.
Et du coup, quel est ton rôle ici ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, avant tout, c'est l'accueil, bien sûr, parce que pour moi, c'est important que les artistes se sentent bien. Et j'essaye de tout faire pour que ça se passe bien au niveau des artistes, mais aussi au niveau des spectateurs. Et à chaque fin de spectacle, il y a souvent un verre de l'amitié à partager pour permettre l'échange entre les spectateurs et les artistes. Mais parfois, il y a aussi des échanges entre artistes, parce qu'il se peut qu'il y ait des expositions de peinture, de photographie, en même temps des résidences de clowns ou de comédiens ou de danseurs ou de musiciens. Et alors ça, évidemment, je suis très privilégiée parce que j'assiste à ces échanges entre artistes.
Il y a beaucoup d'artistes, tu dis, peintres, du théâtre, des musiques. Il y a du coup, j'imagine, beaucoup de lieux. Cet endroit, il doit être assez grand ou alors il est bien dispatché. Est-ce que tu peux me faire une petite visite comme ça, de tête, nous montrer les lieux ?
Alors oui, tout à fait, absolument. Donc il y a la salle principale, je dirais la salle de création qui fait 50 mètres carrés, qui était anciennement une grange rénovée. Après, il y a également ce qu'on appelle une salle de musique, qui est un petit peu plus petite, mais qui offre la possibilité même de répéter pour des chorales. Et il y a en dessous de la grande salle de création, il y a des loges pour artistes. Donc il y a 5 postes à maquillage, ce qui permet de, pour les artistes de se préparer tranquillement. Et il y a tout le premier étage est réservé à l'hébergement, donc je peux accueillir jusqu'à 9 personnes voilà, en hébergement.
Tu as fait le choix d'établir la ronceret ici, à Saint-Laurent-de-Trèves, certains diraient au milieu de nulle part.
Oui.
Pourquoi ici ?
Alors d'abord parce qu'en effet, mes parents avaient acquis cette maison en 1973, elle était un peu en ruine, donc ils ont fait énormément de travaux et je me suis retrouvée avec cette maison beaucoup plus tôt que prévu et je me suis dit, il faut absolument partager cette maison avec le public, les artistes. C'était un ancien relais des postes et diligences, donc en effet, elle retrouve, je dirais, ses lettres de noblesse de relais pour les artistes qui viennent ici se ressourcer, créer et y a, d'ailleurs, il y a des résidences où parfois les artistes vont travailler à la table, il n'y a donc pas de restitution auprès du public, ou il y a une restitution auprès du public, mais ça peut être juste voilà, les 25 premières minutes du spectacle, ou le spectacle est moitié lu, moitié mise en scène, et enfin le spectacle, ça y est, il est prêt, et c'est ce qui va se passer demain soir, et il y a un moment, il faut le tester auprès du public.
Il y a un attrait quand même peut-être pour les artistes de venir faire une résidence ici parce que c'est justement mieux nulle part. Est-ce que le cadre invite des gens à venir ici se ressourcer, chercher des idées ? Ou la tranquillité
Alors oui, je pense qu'en effet, c'est pour se ressourcer, la tranquillité, et puis ça permet à la fois de rester très concentré sur la création, et puis de pouvoir voilà, faire un tour sur le site des empreintes de dinosaures, ou alors aller sur le col du Ray, ou la canne d'Hospitalet, et vraiment s'aérer, se ressourcer. Je pense qu'on a la chance d'habiter dans un paysage absolument, enfin, un lieu absolument magnifique, avec des paysages grandioses, donc c'est vrai que c'est certainement un attrait pour les artistes.
La ronceret en plein milieu de la Lozère, c'est peut-être pas évident pour tout le monde au début. Est-ce que tu as réussi à te faire une place, que tu as réussi à t'inscrire dans le territoire de la Lozère ? Est-ce que tu considères avoir ta place aujourd'hui dans la culture ?
Ah bah c'est une bonne question, je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est une histoire. Là, c'est 2023, c'est la 5e année, donc j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Je pense qu'il faut encore travailler et puis s'enraciner, hein, comme la nature. Il faut s'enraciner localement pour après pouvoir grandir et puis avoir une ouverture vers d'autres cultures, d'autres pays. Quoique, il y a eu déjà des artistes de Corée du Sud, des artistes de Hongrie, voilà.
Et tu as réussi du coup à faire des collaborations peut-être avec d'autres organismes, structures culturelles du coin ?
Alors oui, tout à fait. Il y a eu déjà des soirées en partenariat avec la Jeunette Verte, les Scènes Croisées de Lozère. J'ai toujours beaucoup de bonheur aussi d'accueillir les contes et rencontres des foyers ruraux. Et ça, c'est aussi voilà, très important pour moi de pouvoir mettre en place ce type de partenariat.
Et en parlant de collaboration, tu en as peut-être fait aussi avec d'autres artistes pour permettre de faire connaître le lieu, attirer des gens.
Alors ça, c'est, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de communication, hein, j'ai pas de budget pub communication, et puis je préfère que ça se passe en fait de bouche à oreille entre artistes, c'est-à-dire que les comédiens vont en parler à d'autres comédiens, ils ont vu le lieu, ils ont pu tester le lieu, l'environnement, et voilà, comme c'est une histoire de cœur, hein, voilà, le cœur en joie, c'est, je pense que c'est important de garder cette relation-là vraiment de bouche à oreille.
Et du coup, au milieu de tout ça, en parlant de bouche à oreille, c'est qui au final le public de la ronceret ? Est-ce qu'il est fixe ? Est-ce qu'il est constant ? Est-ce qu'il y a des âges différents ? Est-ce que c'est des locaux, des touristes ?
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a absolument de tout. C'est-à-dire qu'en effet, il y a les locaux, parce que ça, c'était pour moi très, très important d'accueillir les habitants dans ce lieu. Et puis aussi les touristes, puisqu'en effet, par exemple, cette année, il y a eu des expositions du 8 mai au 24 septembre. Et donc, évidemment, grâce au site des empreintes de dinosaures, il y a eu énormément de touristes, donc beaucoup de Français, mais aussi des Allemands, des Belges, des Hollandais, également des personnes d'Afrique du Sud. Et donc, c'est ça qui est passionnant, c'est à la fois cet enracinement local avec cette ouverture sur l'international et national, voilà.
En parlant de l'asso, du coup, c'est Joya & Core, tu l'as dit à l'instant, le cœur en joie ?
Absolument. Oui, tout à fait. Donc, en langue occitane, ça signifie le cœur en joie. Et puis, c'est une association. Nous sommes trois femmes, trois amies à nous occuper de cette association. Isabelle Austin, Marie-Noëlle Debelle et moi-même. Mais il y a aussi plein d'autres personnes. Philippe Lebihan qui a créé le site internet et qui le met à jour très régulièrement. Voilà, Rémi Noël qui s'occupe de la régie technique et également des relations avec la presse. Et puis, des bénévoles, des personnes qui soutiennent, et sans oublier bien sûr le soutien de la mairie de Caen et Cévennes, la communauté de communes Gorges-Causses et Cévennes et le département de la Lozère, sans qui l'aventure ne pourrait pas se poursuivre d'année en année, ça c'est certain.
Et du coup, comme toute structure associative, vous avez du coup un besoin de bénévoles. C'est quoi votre besoin? Pourquoi vous avez besoin de bénévoles? Pour quelles actions?
Alors je dirais les bénévoles, c'est avant tout pour accueillir les touristes de passage, par exemple lors des expositions, et puis c'est des petits coups de main ponctuels lorsque il y a des soirées, parce que on peut avoir des soirées parfois jusqu'à 50 personnes ou moins, donc c'est avant tout au niveau de l'accueil, je dirais.
Au niveau des résidences aussi, du coup, c'est quand même l'idée principale, j'imagine, de la Ronceret, c'est pouvoir accueillir des artistes pour qu'ils puissent travailler. Tu accueilles combien de résidences par année ?
Alors, en matière d'année, c'est un peu moins d'une dizaine de résidences par an. C'est très variable. Ça peut être une résidence de 2 jours pour juste fixer des aspects techniques en lumière, en son. Ça peut être également des résidences, je dirais plus constructives dans la création et qui durent 18 jours. Voilà. Mais il n'y a pas de compagnie de théâtre à demeure comme ça peut arriver dans certaines résidences. En règle générale, c'est souvent autour de, je dirais, 6 à 8 jours.
Ce lieu, c'est un lieu d'accueil de résidence, mais c'est aussi ton lieu de vie à toi. Il me semble que tu vis juste à côté.
Oui, absolument. Alors pour l'instant, je vis encore un peu au milieu des artistes, et bientôt je serai juste à côté, enfin vraiment pas loin. Hein. Ce qui permettra de libérer une chambre avec une salle d'eau supplémentaire. Quoique c'est toujours un bonheur de partager les repas avec les artistes, mais là encore, je leur demande à chaque fois, c'est parce que ça dépend bien sûr des artistes, des résidences. Certains, on échange tous ces moments de repas, ce qui est toujours très intéressant. Et puis parfois, je les laisse tranquilles aussi et on se retrouve le soir, lors du dîner.
Et à vivre comme ça au milieu des artistes, tu dois être toujours forcément très impliqué mentalement, physiquement. Tu bosses tout le temps, tu travailles tout le temps, plus ou moins, sur chaque nouveau projet. Et comment tu te sens entre deux résidences ou entre deux spectacles quand il n'y a personne, quand tout est vide? Est-ce qu'il y a ce moment de solitude?
C'est intéressant, ça aussi, cette question. C'est sûr qu'il peut y avoir une fatigue émotionnelle parce qu'il y a énormément d'émotions, on rit beaucoup, on pleure rarement, il faut dire, on rit beaucoup, mais parfois, en effet, il y a énormément d'émotions, ça remue toujours les artistes et leur univers. Donc, ça remue l'intériorité, ça c'est sûr. Mais en fait, entre deux résidences, je dirais, c'est aussi pour moi le moment où moi-même je me ressource du coup. Donc j'aime bien aussi ces moments plus de solitude, de calme, et du coup ça me permet aussi de me recharger pour la résidence suivante ou l'exposition,
C'est pas du coup un lieu que de résidence, tu refais des spectacles entre deux, des expositions, non, t'as pas un vide à combler par de l'artistique?
Oh là là, non, je crois pas en fait. Je crois pas que j'ai un vide à combler. J'ai l'impression d'être très pleine en fait. Donc du coup, non, mais après voilà, j'aime aussi les moments où je me retrouve, où j'aime lire. C'est vrai que j'étais en train de me poser la question. Est-ce qu'il y a des moments de... Après, il y a des moments de doute. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas si simple que ça. Et puis c'est bien de l'admettre et de le reconnaître. Et puis d'en parler, de dire mais est-ce que, à quoi ça sert finalement de faire ça, pourquoi, et puis après une très belle soirée et puis des échanges magiques entre artistes et spectateurs, on se dit ah oui, non, vraiment, ça vaut la peine de continuer, de poursuivre. Et c'est comme ça que d'année en année, même si parfois il y a des moments de doute quand même, si, il faut avouer, il y a des moments de doute, c'est une telle aventure humaine passionnante qu'on se dit bon, allez, je vais encore continuer quelques mois, puis je verrai dans quelques mois comment ça se passe.
Mais en parlant de moments de doute, tu as créé du coup cet endroit en plein milieu, en plein début de Covid, j'imagine, par là, où tu as vécu du coup toutes les années Covid en oui. plein dans la création de ce lieu. Comment ça t'a impacté?
Eh ben, en fait, j'ai pas été impactée puisque c'est un lieu privé qui accueille du public. Donc, j'ai décidé de prendre évidemment toutes les mesures sécuritaires, que voilà, il y avait aucun problème et ça s'est bien passé. Mais on a continué à fonctionner parce que pour moi c'était important de garder cette ouverture, d'accueillir tout le monde. Je ne pouvais absolument pas envisager une ségrégation par rapport à un état de santé. Ce n'était absolument pas dans mes valeurs. Ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Et donc c'est un lieu ouvert à partir du moment où voilà, bien sûr on appliquait les règles sécuritaires, sanitaires, etc. et puis les gens venaient s'ils le souhaitaient. Et voilà, pour moi c'était important. Et du coup très clairement, je n'ai pas ressenti comme malheureusement certains lieux qui ont été obligés de fermer pendant plusieurs mois. La vie a continué, évidemment dans un format plus restreint, mais c'était pour moi important parce que j'estime que la culture, les arts, c'est absolument essentiel. Voilà.
Tu parlais un instant de ségrégation par rapport à des maladies, état de santé. Ça m'est venu à la tête comme ça. J'ai pensé aux personnes à mobilité réduite, fauteuil roulant, tout ça. Oui. C'est adapté du coup, les scènes, les spectacles, tout ça?
Oui, bien sûr. Alors, pour accueillir en effet les spectateurs en fauteuil roulant, puisque grâce à des amis, donc une personne qui était en fauteuil roulant manuel et l'autre personne en fauteuil roulant électrique, vraiment, on a pu tester, je dirais, en live, la possibilité d'arriver par le portail et d'arriver jusqu'à la salle. Après, c'est vrai que pour une résidence d'artiste en fauteuil roulant, là, c'est plus compliqué parce qu'on est dans une maison ancienne, voire très, très ancienne, Cévenol, et donc il y a des marches partout, et ça c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, au moins pour les spectateurs, pour moi c'était important de... Il y a une rampe qui a été créée pour que justement on puisse accueillir aussi les personnes en mobilité réduite.
Je reviens vite fait sur les résidences. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas il y a 6-7 mois, je ne m'y intéressais pas forcément. Oui. Et du coup, je suis toujours à la recherche de comment ça fonctionne, comment ça marche. Toi, ici à la Ronceret, comment tu fonctionnes pour tes résidences? C'est toi qui vas chercher les gens, c'est eux qui sont en demande et qui viennent demander une résidence à cet endroit-là?
Alors oui, c'est vrai que je ne prospecte pas, je ne vais pas chercher, parce que c'est vrai que dans une autre vie, je faisais que de la prospection et j'allais chercher à l'époque, donc c'était les clients. Et donc là, j'ai décidé que j'allais fonctionner complètement autrement. Et ce sont les artistes qui découvrent les lieux, soit, comme je disais tout à l'heure, de bouche à oreille, soit en faisant des recherches sur le site internet. Et je trouve ça finalement tout aussi bien, c'est très agréable. Après, c'est vrai que s'il y a une résidence, par exemple à 4, 5, 8 comédiens, et qui vont être en huis clos, je dirais, pendant 5 jours, voire 10 jours, je préconise toujours de faire une petite visite avant pour sentir le lieu au niveau énergétique, au niveau vibratoire, pour savoir s'ils s'y sentent bien, s'ils pensent que c'est possible de réaliser une création, de travailler. Parce que ça, je pense que c'est important quand on sait qu'on va se retrouver à plusieurs et à travailler sur la création. C'est pas toujours évident parce que ça remue beaucoup de choses intérieurement et il faut être vigilant pour que ça se passe le mieux possible. Et donc c'est vrai qu'ici c'est comme un petit cocon, on est en sécurité pour aller chercher au plus profond de soi sa lumière, tout simplement.
Tu disais tout à l'heure que tu accueillis à peu près une dizaine de résidences à l'année. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas plus de demandes ou c'est toi qui te mets un frein, tu te limites à une dizaine?
Alors, pour l'instant, oui, c'est un peu moins d'une dizaine. C'est pas que je me limite pas. C'est, pour l'instant, ça se passe comme ça. Je ne force pas. Et c'est vrai que, voilà, ce sont les personnes qui demandent. Et ça fonctionne bien. Peut-être que ça pourra changer, d'ailleurs. Ça fonctionne comme ça en 2023. L'année prochaine, ça fonctionnera peut-être autrement. Pour moi, c'est important que ça... C'est pas figé. Il n'y a pas de fonctionnement... figé par rapport à une résidence d'artiste, surtout que c'est chaque résidence d'artiste, je pense à son fonctionnement, son modèle économique qui diffère, voilà. Alors, je pourrais accueillir plus à partir du moment où les artistes ne sont pas frileux, parce que il n'y a pas de chauffage central quand même durant l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Alors, je dirais octobre, novembre, c'est encore tout à fait jouable, parce que les murs sont encore remplis de, enfin voilà, sont remplis de chaleur de l'été. Janvier, février, mars, là, c'est quand même très différent. Alors, il y a toujours moyen de chauffer les chambres, évidemment. La salle de création, elle est chauffée avec un poêle à granulés qui fonctionne très très bien, donc ça, il n'y a pas de souci pour travailler. Après, les chambres aussi, voilà. Après, les pièces communes, ça peut être un peu plus compliqué.
Sortons des résidences, parce qu'en parallèle, du coup, pour rappeler un peu les événements que tu organises, tu as des soirées comptées, des lectures, des spectacles, des concerts, des stages et encore plein d'autres choses, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à organiser, que tu ne trouves pas encore le temps, que tu aimerais faire, mais que ce n'est pas encore possible ?
Alors là, je suis surprise de tout ce qui s'y passe et finalement je fais confiance aux artistes parce que moi j'ai pas une grande imagination et du coup je pense être assez limitée au niveau de mon imagination et je fais confiance aux artistes pour imaginer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Alors très clairement par exemple, c'est grâce à une artiste, France Alti, qui m'a proposé de faire des expositions collectives. Et c'est vrai que je m'étais, dans ma tête, j'imaginais avoir juste une salle, la salle de création de 50 mètres carrés pour accueillir des tableaux, des sculptures, des photographies. Et puis finalement, grâce à elle, elle m'avait proposé de faire une première exposition avec 7 ou 8 artistes et alors du coup avoir des œuvres d'art un peu partout. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Il y avait des œuvres d'art jusque dans les loges des artistes. Et de moi-même, je n'y aurais absolument pas pensé. Et ça, je trouve ça vraiment bien d'être à plusieurs, hein, plusieurs cerveaux, plusieurs imaginaires. Comme je dis, à partir du moment où on respecte le lieu, je suis ouverte à beaucoup de choses. Après, c'est vrai que c'est un lieu quand même qui... par exemple, j'ai des demandes de résidence d'artistes du cirque. Et j'adorerais les accueillir, mais c'est pas un lieu approprié, c'est un peu petit pour eux parce qu'il leur faut des grands volumes, des grands espaces. Et il y a d'autres résidences qui offrent des espaces exceptionnels pour ces artistes de cirque.
C'est quoi les nouveautés qu'il y a eu cette dernière année ou des nouveautés qui sont prévues qui vont arriver l'année prochaine ?
Alors, il y a des choses en cours. Alors, il y a l'activité d'ateliers, de stages, comme par exemple les ateliers de chaque danse avec Céline Duchesne, voire peut-être des cours privés de tango argentin avec Augusto Avenio. Il y a aussi des ateliers d'écriture avec Marlène Sauvage, des ateliers de chant avec Joanne Tintinville, que le 28-29 octobre par exemple, donc des choses assez variées. Et puis ce qu'on a inauguré cette année avec Rémi Noël, c'était les veillées du diligent Patachon sur des thèmes très particuliers comme les Vierges Noires, la chanson du Bouvier. Et les prochaines veillées du diligent Patachon, ce seront le 31 octobre sur l'histoire de Jeanne d'Arc, la vraie histoire de Jeanne d'Arc, et le mois de novembre, le 11 novembre, ça sera une lecture d'un texte de François Rabelais sur le bon usage de vin. Voilà, avec, je crois, il me semble, une dégustation de vin grâce à un ami œnologue.
Et à accueillir plein de stages comme ça pour cette année et vivre à côté, ça va pas te tenter, te donner envie de participer à beaucoup trop de stages en même temps ?
Et ben voilà, alors excellente question. Il se trouve que je participe en effet parfois, parce que je craque, à des stages en particulier. J'ai participé au stage de clown réalisé par Mylène Lormier le 22, 23, 24 juillet. Et vraisemblablement, je sens que je vais participer au stage de chant de Joanne Tintinville, auquel j'avais déjà participé à un de ces stages de chant l'année dernière, parce qu'elle aborde le chant de manière assez extraordinaire. Voilà.
Est-ce que tu aurais une mot, une phrase, une citation, un conseil culturel pour terminer ?
Sur la culture. Voilà. Alors. Moi je suis persuadée de manière complètement intuitive que la culture, le spectacle vivant, c'est essentiel et que c'est excellent pour la santé. Alors le rire, évidemment, c'est excellent pour la santé. Et j'ai découvert récemment dans un livre que c'était même préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, que ça faisait partie d'un bon fonctionnement, enfin que en tout cas l'existence des arts, du spectacle vivant, mais aussi des expositions, de l'existence de librairies, de bibliothèques, faisait partie intégrante d'une meilleure santé psychologique et physique. Et ça, voilà, j'étais surprise de voir ça dans des rapports de l'Organisation mondiale de la santé, parce que moi c'est ma croyance très intime que c'est primordial. Parce que ça fait découvrir voilà, des univers très variés, très différents. Après, on peut aimer ou pas, mais pour moi, c'est important et ça fait partie d'une bonne santé physique et mentale.
Où est-ce qu'on peut retrouver le programme de la Ronceret
Alors, en effet, le programme de la Ronceret, en règle générale, sur le site internet de Joy Encore, donc c'est www.joia.encore.com. Il est à jour grâce à Philippe Le Bihan, et s'il n'est pas à jour, c'est de ma responsabilité parce que je ne lui ai pas envoyé les documents ou les informations à temps, puisque j'ai décidé de changer de vie. Et donc, ce que je mets en avant, c'est plutôt la rencontre humaine, voilà, l'accueil, les échanges. Et donc, je passe le moins de temps possible devant un écran et devant l'ordinateur. Mais il est excessivement réactif et tout de suite, il met à jour les informations. Voilà. Après, c'est vrai que je communique beaucoup par mail et donc j'envoie l'information aux personnes qui le souhaitent, qui me laissent leur adresse email. Et grande nouveauté en année 2023, j'essaye de mettre à jour aussi une page Facebook.
Merci beaucoup Nausicaa, et au plaisir de revenir ici pour voir des spectacles.
Et ben avec grand plaisir, merci beaucoup Léo, à bientôt.
Et oui, aller dans ce lieu magique qui est la Ronceret à Saint-Laurent-de-Trèves. Merci beaucoup à toi Léo. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve dans une semaine puisque mercredi c'est le 1er novembre et c'est férié. Je vous souhaite une excellente journée sur Radio Arthas. Restez-y, on n'y est pas trop mal. À très bientôt, ciao.
Un beau jour que j'allais aller à l'école, une idée bizarre me suivait comme un pot de colle. Elle s'accrochait à moi, à mes chaussettes, comme un poisson pilote à sa roussette. Je lui dis va-t'en, j'ai pas le temps, il faut que je décolle. Mais elle ne m'écoutait pas, elle était un peu folle. Elle attendait de moi que je m'arrête pour grimper de mes pieds jusqu'à ma tête. Elle avait de petits bras et plein de poils pour gratter, et de très grands yeux tout ronds où l'on peut se regarder. Elle m'a tenté tant chatouiller le menton que je me suis cogné le front. C'est alors que plein d'idées poilues sont sorties de ma tête, faisant la ronde et chantant à tue-tête. Nous on veut pas aller à l'école, on préfère voyager, prendre notre envol. Se chauffait d'un tout autre bois. Stop la farandole dans un claquement de doigts. Puis elle dit, mes amis, écoutez-moi, je vous en prie, ouvrez les yeux, faites comme moi. Les idées poilues ont ouvert de grands yeux tout ronds, et vu qu'autour d'elle il y avait plus de 1000 façons de vivre et de parler chez les filles et les garçons de mon école, près de ma maison. Ce jour-là, j'ai beaucoup voyagé, grâce à mes copains de l'école et de mon quartier. Et plus tard, quand je serai grand, je saurai voyager dans le cœur des gens.